Audiolib présente Le problème Spinoza de Irvin Yalom, traduit de l'anglais par Sylvette Glaise, lu par Philippe Sollier. Chapitre 1. Amsterdam, avril 1656. Tandis que les derniers rayons de lumière ricochent sur les eaux du Zwanenburgwal, Amsterdam ferme boutique. Les teinturiers rassemblent leurs étoffes, magenta, cramoisi, qui sèchent sur les berges de pierre du canal. Les marchands remontent leurs auvents et remballent leurs étals. Quelques travailleurs qui rentrent chez eux d'un pas pesant font une halte dans les baraques à harengs qui longent le canal. Ils y avalent un repas sommaire, accompagné de gin, avant de poursuivre leur chemin. Amsterdam se meut lentement. La ville est en deuil. Elle se remet à peine de la peste qui, seulement quelques mois plus tôt, a tué un habitant sur neuf. À quelques mètres du canal, au 4 de la Breestraat, un Rembrandt van Rijn, ruiné et légèrement éméché, met la dernière touche à son tableau « Jacob bénissant les fils de Joseph ». Il y inscrit son nom, en bas à droite, jette sa palette à terre et descend l'étroit escalier en colimaçon qui se trouve derrière lui. La maison, qui 3 siècles plus tard le commémorera en devenant son musée, est ce jour-là témoin de son humiliation. Elle grouille des futurs enchérisseurs qui se préparent pour la vente de tous les biens de l'artiste. Il écarte avec rudesse les badauds présents dans l'escalier, passe la porte d'entrée, hume l'air iodé, et se dirige en trébuchant vers la taverne du coin. À Delft, 70 kilomètres au sud, un autre artiste commence, lui, à connaître le succès. À 23 ans, Johannes Vermeer pose un ultime regard sur sa dernière toile, l'entremetteuse. Il l'examine de droite à gauche. D'abord, la prostituée dans une jaquette au jaune éclatant. Bien, bien. Le jaune irradie comme un soleil lustré. Et le groupe d'hommes qui l'entoure. Excellent. Chacun d'eux pourrait tout à fait sortir de la toile et entamer ici une conversation. Il se penche pour saisir au plus près l'imperceptible mais perçant regard du jeune sybarite au chapeau de dandy. Vermeer hoche la tête devant ce moi en miniature. Parfaitement satisfait, il inscrit son nom avec panache en bas à droite de la toile. Revenons à Amsterdam. Au numéro 57 de la Breestraat, à 2 rues seulement de la maison de Rembrandt où se prépare la vente aux enchères, un marchand de 23 ans, né quelques jours à peine avant Vermeer, qu'il admirera, mais ne rencontrera jamais, s'apprête à fermer sa boutique. Il semble bien délicat et bien gracieux pour un boutiquier. Ses traits sont parfaits. Il a un teint d'olive sans défaut, de grands yeux sombres et expressifs. Il jette un ultime regard autour de lui. La plupart des étagères sont aussi vides que ses poches. Des pirates ont intercepté sa dernière cargaison en provenance de Baïa. Et il n'y a plus ni café, ni sucre, ni cacao. Une génération durant, la famille Spinoza a dirigé une affaire prospère de négoce en gros avec de lointains pays. Mais aujourd'hui, les frères Spinoza, Gabriel et Bento, en sont réduits à tenir un petit magasin de détail. Inspirant l'air poussiéreux, Bento Spinoza découvre avec résignation les déjections de rats à l'odeur fétide, mêlées à celles des figues et des raisins secs, du gingembre confit, des amandes et des pois chiches, comme aux vapeurs de l'acre-vin d'Espagne. Il franchit le pas de la porte et entame son combat quotidien avec le cadenas rouillé qui ferme la boutique. Une voix inconnue exprimant dans un portugais guindé le fait sursauter. « Êtes-vous Bento Spinoza ?» Spinoza se retourne et se retrouve face à 2 étrangers, 2 jeunes hommes apparemment épuisés qui semblent avoir fait un long voyage. L'un est grand, il a une tête massive et osseuse qu'il tient penchée vers l'avant, comme si elle était trop lourde à soutenir. Ses habits sont de bonne qualité, mais tachés et fripés. L'autre porte des guenilles de paysan et reste derrière son compagnon. Il a le cheveu long, emmêlé, des yeux sombres, un menton et un nez fort.